Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Écoutez Radio, il est 11h passé de quelques secondes. Un très grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue. C'est votre rendez-vous habituel du samedi sur l'antenne de votre radio locale préférée. Nouvel invité pour ce nouveau numéro de Wagon Livre, et pas n'importe qui. Bien sûr, on a toujours de très belles invités, de beaux invités. C'est Maude Simoneau qui va nous accompagner aujourd'hui jusqu'à midi. Maude Simoneau, bonjour et bienvenue dans le Wagon Livre.
Bonjour, très heureuse d'être ici.
Alors Maude Simoneau, alors Maude, d'abord vous êtes une bourguignonne.
Alors, je suis absolument bourguignonne. Je suis née à Semur en Auxois et j'ai passé toute mon enfance dans le Morvan. J'ai fait mes études à Autun et à Dijon.
Alors, en ce début d'année 2026, et je crois que c'est depuis l'automne dernier, vous êtes directrice éditoriale chez Actes Sud.
Oui, de la maison Actes Sud.
Après avoir travaillé pour Gallimard, pour Grasset, avoir dirigé la NRF.
Et Le Seuil, et Flammarion, enfin beaucoup de maisons. Et là, je suis arrivée dans une maison que j'adore, donc j'ai beaucoup de chance.
Donc une Maude Simoneau un peu nomade éditoriale.
J'espère que je vais rester très longtemps dans cette nouvelle maison et qui m'offre un poste magnifique où je vais pouvoir m'épanouir normalement.
Vous êtes sur le devant de l'actualité littéraire avec un nouveau roman. Alors nous nous sommes rencontrés en 2022 lors d'une table ronde que j'animais à Livres en Vie. C'était précisément le 25 septembre, c'était la 15e édition de Livres en Vigne au château du Clos de Vougeot entre Beaune et Dijon. Cette année-là, c'était Irène Frein qui en était la présidente. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez, Maude, mais autour de vous, il y avait Muriel Barbery, Daniel Picouli, Lionel Duroy, que j'affectionne particulièrement.
Merci.
Et à l'époque, nous avions parlé alors d'un roman qui, d'ailleurs, a des liens avec le dernier. On y reviendra. Donc, c'était L'heure des oiseaux aux éditions de l'Observatoire. Alors, si vous changez beaucoup de maisons d'édition, néanmoins, toujours aux éditions de l'Observatoire, donc, on peut se procurer votre dernier roman qui s'intitule Le feu et la rose. Maude Simoneau, vous l'avez dit, née en Côte d'Or, Semur en Auxois, la belle et orgueilleuse Semur en Auxois, et une famille dont le berceau se trouve dans le Morvan, parce que Semur en Auxois, ce n'est pas le Morvan.
Dans le Morvan et plus particulièrement dans la Nièvre.
Alors la Nièvre, et c'est Aligny en Morvan. Est-ce que je vous laisse présenter le synopsis de votre dernier roman, Le Feu et la Rose?
Oui, c'est relativement simple. Il se trouve que c'est très autobiographique, alors même si je me suis permis des licences poétiques. Tout part de l'enterrement de mon grand-père, où ce jour-là, je dois demander, comme on fait quand on travaille, un papier officiel pour avoir l'autorisation de prendre une journée pour assister à cet enterrement. Et là, je m'aperçois que le nom de sa mère est Lili Kanovic, ce qui n'est pas vraiment un nom du Morvan. Je savais que mon grand-père venait donc d'Aligny, de cette région, et qu'il était d'un milieu paysan. Donc ça m'a surpris. J'ai fait comme il se doit, j'ai posé des questions à ma famille. J'ai obtenu des réponses très évasives sur cette Lily, qui était donc une orpheline, comme il y en a eu donc plus de 200 000 dans le Morvan, mais qui était anglaise et d'origine juive. À partir de là, ça m'a amusée. En tout cas, au début, c'était vraiment un amusement de mener une enquête autour de cette petite Lily qui avait été placée là au début du XXe siècle. Et je me suis rendu compte très vite que je pouvais la mettre en parallèle avec... donc c'est elle, la rose du livre, et que je pouvais la mettre en parallèle avec sans doute celui qui est resté l'orphelin le plus célèbre du Morvan, qui est Jean Genet, et c'est lui le feu dont on parle dans le titre.
Et effectivement, alors c'est une enquête familiale, un retour et découverte de cette arrière-grand-mère, Lili Kanovic, venue vraisemblablement de Lituanie avec des parents polonais en exil.
J'en ai eu la confirmation il y a quelques jours. J'ai retrouvé quelqu'un qui s'appelle aussi Kanovic et qui m'a dit que c'était la même famille, qui venait donc de Lituanie. Et Lili, cette petite fille, quand elle est arrivée en France, pendant des années, elle a été la seule, il faut imaginer ça, la seule en France à porter ce nom de Kanovic.
Et vous imaginez dans ce roman, vous imaginez que votre arrière-grand-mère aurait pu être une camarade du petit Jeannot qui, lui, a, par rapport à Lily, plus de chance parce qu'il tombe dans une famille. Alors d'abord, ce ne sont pas des paysans, c'est les fameux Régnier, hein, Eugénie et Charles. Le petit Jean Genet, c'est un orphelin, tout comme Lily. Et vous les imaginez tous les deux, ces enfants mal compris, montrer du doigt quand même, parce que quand on est dans une famille d'accueil dans le Morvan, dans les années 1900, ils sont nés en 1910-1911. Oui, on est montré du doigt, et puis évidemment les enfants sont cruels.
De toute façon, on peut imaginer qu'une vie de souffrance quand on est abandonné et quand on est orphelin, mais il se trouve que pour Jean Genet, on a plusieurs témoignages qui concordent. Il a eu la chance de tomber dans une famille avec une mère adoptive aimante, quelqu'un qui s'appelait Eugénie, donc qui a été visiblement assez merveilleuse pour lui et qui malheureusement est morte quand il avait une dizaine d'années. C'est comme s'il avait reperdu une mère à nouveau.
D'ailleurs, dans votre texte, Maud Simoneau, vous écrivez « J'ai l'impression d'avoir connu Eugénie », donc la maman adoptive du petit Jean Genet.
Oui, il y a un peu un type, en tout cas, de femme du Morvan de cette époque-là. Moi, j'ai des photos de certaines de mes grand-mères et autres tantes. Et ce sont des femmes assez plantées, solides, courageuses, habillées souvent tout en noir, avec un visage assez austère et une douceur quand même. En tout cas, moi, ma grand-mère maternelle, qui était née en 1910 aussi, qui s'appelait Marie, était quelqu'un d'une gentillesse incroyable, mais très réservée. Et ça, pour moi, c'est quand même un trait commun à beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans mon enfance, dans le Morvan. Des gens qui sont merveilleux, mais très taiseux et très réservés.
Alors, est-ce que comme Vauban, vous pourriez aujourd'hui dire « le Morvan, ma patrie ».
Alors oui, je pense qu'il n'y a pas plus chauvine que moi. C'est simple, de toute façon, il suffit que je retourne en voiture, que j'arrive dans les frondaisons du Morvan, dès les premiers mètres où on passe sur cette route magnifique, passée à Vallon, et j'ai l'impression d'être chez moi tout le temps.
Page 33, vous écrivez « J'ai su que j'étais entré dans le Morvan quand l'herbe des talus est devenue plus verte et les frondaisons plus denses au-dessus de la route tortueuse qui ne cessait de prendre de l'altitude. »
Oui, c'est ça. Et puis en vieillissant, je me retrouve de plus en plus dans ce pays, dans ces paysages. Sans doute que quand on est enfant, qu'on a la chance de vivre comme je l'ai été pendant 14 ans en pleine nature, on ne se rend pas compte du trésor qu'on a. Mais c'est l'avantage de l'âge. En y réfléchissant, je me rends compte que j'ai une enfance et une adolescence extrêmement privilégiées dans un endroit magnifique avec des gens au cœur d'or.
Alors vous êtes né à ce mur en Aussois, et vous avez passé, où avez-vous passé une grande partie de votre enfance, de votre adolescence ?
Vers Tavernay. J'étais à l'école, qui est une école à classe unique, à Tavernay. Donc vraiment, plutôt vers la Selle au Morvan, donc dans le sud du Morvan.
Et à Ligny-en-Morvan, vous y avez souvent mis les pieds.
En fait, j'ai toujours une grand-tante qui habitait là. Il y avait la marraine de mon père, enfin une grande partie de cette famille Simoneau qui venait d'Aligny et de Saint-Brisson et des alentours. Ma famille paternelle habitait à Nevers, donc de toute façon, on passait notre temps à traverser le Morvan par Château-Chinon pour aller voir les uns ou les autres.
Alors, avez-vous été un temps scolarisé à Autun ?
J'ai été scolarisé à Autun puisque j'étais au collège de la Châtaigneraie et au lycée Bonaparte.
Alors là, vous aviez toute l'histoire à la fois, parce que le lycée Bonaparte, et vous l'écrivez aussi, il y a des vestiges de tirs pendant la Seconde Guerre mondiale ou au moment de la Résistance.
Oui, il y a plein d'histoires, de traces de l'histoire qui se superposent à Autun. Il y a cette histoire gallo-romaine, évidemment, qu'on connaît, l'histoire médiévale. Et puis ensuite, forcément, les passages des Bonaparte. Et sur ce mur, et ben, les traces de la résistance et des guerres.
Hein. Et puis cette cathédrale Saint-Lazare.
Absolument.
Bien sûr, le musée Rollin qui est fermé pour cause de rénovation. Cher Maud, on va marquer un premier intermède musical. Je rappelle que vous êtes notre invité jusqu'à midi dans le wagon-livre sur Radion, je rappelle le titre de votre dernier roman aux éditions de l'Observatoire, Le Feu et la Rose. Nous revenons d'ici quelques minutes.
I could feel the time
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Maud Simoneau, Le Morvan, et vous l'écrivez d'ailleurs dans ce texte. Bien sûr, pour des raisons professionnelles, vous avez été amené à quitter ce pays de collines, de lacs, d'étangs où l'eau est partout présente, où les gens sont simples et humbles. Souvent, on ne vit pas dans le Morvan comme on vit en Corse ou dans le sud de la France, me semble-t-il. Et souvent, et vous l'écrivez, quand vous avez des moments d'abattement ou de découragement, vous repensez à ce Morvan et on a le sentiment qu'il vous a fortifié et qu'il a peut-être aidé à endurcir votre caractère.
Oui, il y a plusieurs choses. C'est que je pense que moi, j'ai été dans un milieu très privilégié. J'ai jamais travaillé la terre, etc. J'ai jamais connu la vie des bûcherons, d'être tous les jours dehors. Mais mine de rien, j'ai côtoyé ces gens-là et j'ai pu admirer leur constance, leur courage et leur engagement aussi pour la protection du Morvan. Je pense que ça donne des valeurs, ça rend solide, en tout cas, d'avoir été pendant des années à la campagne avec ces gens-là. En tout cas, quand on est en ville. Comme maintenant je le suis, j'y repense avec beaucoup de nostalgie et c'est aussi une leçon permanente en repensant à des choses qui semblaient simples et évidentes et qui sont une vraie colonne vertébrale après pour toute une vie.
Alors vous parlez de la sensibilité des Morvandiaux, notamment de certains qui s'engagent pour la protection de l'environnement, qui s'insurgent quand ils voient les coupes rases vers le Haut-Follin. Je rappelle, c'est un des points culminants, je crois que c'est 901 mètres d'altitude si ma mémoire est bonne. Et puis il y a le cousin Sylvain, qui est aussi un beau personnage masculin haut en couleur dans ce roman.
Il est un peu marginal parce que il ne chasse pas, il n'aime pas tellement aller au bar. Il a des plaisirs qui sont des plaisirs assez solitaires. C'est un arpenteur de forêt. Il connaît, comme la plupart des gens de cette famille, extrêmement bien la botanique, la faune et toutes les merveilles du Morvan. C'est un philosophe en fait, mais il a une conscience écologique vraiment chevillée au corps. Et c'est un peu comme idée fixe dans Astérix, les blessures qu'on fait aux arbres du Morvan le pénètrent totalement.
Alors Colette, on le sait, elle est née dans l'Yonne, Saint-Sauveur en Puisaye, tous les Yéconnais le savent. Colette n'est pas restée finalement très longtemps dans le département de l'Yonne. Elle a écrit d'ailleurs beaucoup plus tard « J'appartiens à un pays que j'ai quitté ». C'est la même chose pour vous, Maud Simoneau?
Oui, alors il se trouve que Colette, c'est vraiment un de mes écrivains préférés. Je ne me lasse jamais de la relire. Alors c'est très écrasant parce que quand on lit une description, une page de Colette, on est incapable d'écrire une ligne après tellement c'est beau. Mais je pense que c'est un paysage, et c'était la même chose pour Genet, en tout cas c'est la thèse de mon texte, un paysage qui marque profondément et dont on se souvient pour toute une vie, quel que soit le temps qu'on y ait passé.
La preuve, vous écrivez « Mon cœur appartiendrait toujours à ces bois et resterait un concentré de vie sauvage ». Alors, le petit Jean Genet, qui est donc né, je crois, un 19 décembre 1910, l'histoire de Jean Genet est terriblement émouvante. Moi, j'ai lu quand même quelques textes de Jean Genet. Alors, je ne sais pas si tout le monde peut lire Jean Genet, parce que c'est quand même un peu... c'est Jean-Joseph Julot, dans la littérature française pour les nuls, il dit c'est du lourd, c'est du gros impact. C'est vrai que l'œuvre de Genet, que ce soit les romans, il est beaucoup question quand même du monde des voleurs, des prostituées, de l'homosexualité. Et bien, alors, ne parlons pas du théâtre, je pense aux Paravents, qui ont fait un scandale gigantesque. Quand bien même la pièce avait été défendue par André Malraux à l'Assemblée nationale, le petit Jean Genet donc est confié à la famille Régnier, la gentille Eugénie qui a trois adorations, Dieu, parce qu'elle est terriblement pieuse, elle voulait d'ailleurs que le petit Jean Genet devienne
prêtre. Oui, ça c'est véridique.
Dieu, son jardin et puis son Jeannot. Alors Jean Genet, sa maman... Est-ce que vous en faites un parallèle avec un émouvant personnage de Victor Hugo, ce personnage féminin de la misère et de la détresse et de la solitude?
C'est Fantine. C'est vrai qu'il y a quelque chose de bouleversant parce qu'on a retrouvé, d'autres avant moi, des spécialistes de Genet, ont retrouvé des lettres de la mère de Jean Genet qui s'appelait Camille, dont on sait qu'elle a laissé son enfant, qu'elle a voulu ensuite prendre de ses nouvelles, qu'elle n'en a jamais eu et qu'elle est morte très jeune de la grippe espagnole, mais qu'elle n'a eu de cesse de prendre de ses nouvelles. Et lui aussi a cherché des nouvelles de sa mère par la suite quand il était adulte et là aussi on ne lui a pas donné de réponse.
En tout cas, Jean Genet a écrit à propos de sa mère, je ne sais rien d'elle, il n'y a même pas une photographie de Camille.
Oui, c'est terrible parce que ça fait partie de ces femmes qui ont dû l'abandonner pour des raisons économiques. En fait, faire garder son enfant coûtait plus cher que ce qu'elle gagnait à la journée.
Alors Jean Genet, arrive à Aligny en Morvan, donc dans la Nièvre. Vous rappelez d'ailleurs, Maud Simoneau, que 158 à 175 enfants placés par l'agence de Saulieu se trouvaient sur la seule commune d'Aligny en Morvan.
Il y en avait dans toutes les fermes, en réalité, c'était incroyable, bien sûr. C'est pour ça que je dis que c'était une histoire massive et silencieuse qu'on en a parlé. Il y a eu déjà beaucoup de livres sur les orphelins. Il y a un musée des orphelins à Aligny qui est un musée magnifique, mais il faudrait en parler encore plus. Ça touche des milliers de personnes. Tout le monde, tous les gens du Morvan connaissent des orphelins qui étaient placés dans la ferme à côté, ou ont été en classe avec, ou ont été mariés avec, dans leur famille, dans leurs amis. Et c'est des gens qui ont été aussi très engagés pendant la résistance. Enfin, je trouve que on doit en reparler et leur rendre hommage aussi. C'est vraiment des gens qui sont devenus morvandiaux, qui sont vouant, ont fait famille en fait, et se sont mélangés, ont enrichi cette population si isolée. Et c'est pas banal comme histoire de
Mais
notre
vous
pays.
Vous savez, Maud, moi qui réside à Avallon, dans l'Yonne, je croise des gens de 70-75 ans qui étaient des enfants placés dans des familles.
Mais bien sûr.
Et qui parfois n'en racontent pas trop.
Non, et puis il y a eu des gens qui ont eu des déplacements très malheureux. Il y a des souffrances qu'on ne peut pas édulcorer. Moi, j'ai sans doute peut-être un peu idéalisé le placement de Jean Genet et minimisé peut-être sa souffrance. Mais il se trouve qu'en tout cas, il y avait une forme de tendresse. Et surtout qu'il a eu la chance, et c'était le cas aussi de Lily, d'avoir cet enseignement républicain qu'on devait aux instituteurs de l'époque extraordinaire et à leur engagement. Et ils ont, même s'ils n'ont pas fait de grandes études, ils sont arrêtés juste avant le collège, ils avaient des humanités. Et vraiment, c'était des gens incroyablement cultivée. Genet et Lily, c'était la même chose. On m'a dit que c'était quelqu'un qui ne faisait jamais une faute d'orthographe. Elle était donc paysanne dans le Morvan, et c'est quelqu'un qui écrivait mieux que vous et moi.
Lily et le petit Jean Genet donc décrochent quand même, ce qui n'est absolument pas rien, en 1923. Ils décrochent leur certificat d'études. Mais ce qui est dramatique, là, c'est leur statut originel, leur identité, puisqu'ils ont des matricules. Jean Genet était le matricule 192-102. Ils ne peuvent pas aller au collège.
C'est pas prévu. En fait, après, le placement, il est toujours le même. C'est qu'une fois que l'assistance publique ne donne plus d'argent aux familles, eh bien, en fait, ils doivent travailler, ces enfants. Souvent, les filles, elles sont placées comme servantes aux filles de ferme. Et puis, les garçons, eh bien, ils travaillent à la ferme aussi.
Voilà. En bûcheron, ou escarteur. Voilà. Or, le petit Jean Genet, lui, très vite, il affirme qu'il ne veut pas être bûcheron, il ne veut pas être paysan.
Non. Et on trouve que vraiment il exagère, cet enfant qui ne veut pas, il a d'autres aspirations, et il ne va pas cesser de fuir tout ce qu'on lui propose, que ça soit dans le Morvan ou ensuite quand il est à Paris, jusqu'à ce qu'il finisse par avoir la vie dont il a rêvé, c'est-à-dire une vie de nomade et d'écrivain.
Ce qui est surprenant dans le journal du voleur, qui est publié en 1949, Jean Genet écrit « Je fus élevé dans le Morvan par des paysans ». Or, vous l'écrivez vous-même, Maud Simoneau, c'est un grossier mensonge.
Et il n'a pas arrêté de mentir.
Eugénie et Charles Régnier étaient tous sauf des paysans. Charles était menuisier, et puis elle était à un débit de tabac. Oui.
Mais
Et pourquoi Jean Genet s'invente-t-il?
Alors, il y a toutes sortes de théories. C'est que sans doute que ça participait de sa légende. En tout cas, c'était un raccourci assez facile pour lui. Il parlait aussi à des Parisiens qui imaginaient que tous les gens de la campagne étaient des paysans. Et puis, dans l'imaginaire de ce qu'il a créé, c'était mieux de venir du milieu le plus bas socialement possible et de s'être fait tout seul. Et puis, il y a aussi qu'il a totalement occulté cette partie de sa vie au point d'avoir dit, et c'est dingue, à des journalistes de la BBC qui voulaient l'interviewer sur ce village, qui ne se souvenaient plus de ce nom. Ce n'est pas possible de vivre de 0 à 14 ans dans un endroit et de ne pas se souvenir de son nom.
Ce qui est aussi très intéressant, alors là, je m'adresse à la fois à la romancière et à l'éditrice, vous expliquez que le petit Jean Genet, enfin, avait soi-disant un accent assez campagnard. Parlait-il le patois? Rejetait-il cette langue des villageois? Était-il déjà rebelle à ce patois? Et surtout, vous dites que s'il a produit des textes, j'allais dire dissonants, ambitieux, choquants, pour qui veut être choqué, c'est peut-être aussi parce qu'il avait la certitude que ces textes n'auraient jamais pu être lus par sa maman. Et ça, c'est très beau.
En tout cas, c'est un échange qu'il a avec un auteur qui s'appelle Tahar Ben Jelloun, qui est membre du Goncourt. Et donc, c'est Tahar qui raconte que Jean Genet lui a demandé s'il avait s'il aurait écrit la même chose si sa mère, qui donc ne lisait pas le français, l'avait lu. Et Tahar a répondu non. Et la seule chance qu'ont les orphelins, c'est de ne pas avoir de parents. Et quand on n'a pas de parents, on est libre d'écrire ce qu'on veut.
Alors évidemment, face à face, il y a votre arrière-grand-mère, Lili Kanovitch, qui va avoir une petite vie dans une métairie avec son mari, parce qu'elle se marie. Alors au Genet, on connaît son parcours homosexuel. Enfin, il y a eu Abdallah, qui est le dernier amant. Lili, elle reste un peu dans l'ombre, alors que Genet, qui est l'homme de feu, lui est un peu dans la lumière quand même un certain temps. Il a une notoriété.
Ah ben ça c'est sûr, mais même international, et même s'il est moins connu qu'avant, il a encore joué et enseigné, etc. Donc c'est incroyable, il a un rayonnement qui n'a jamais cessé et qu'on redécouvre régulièrement, même si en effet c'est difficile d'accès. Mais elle a le parcours très habituel des orphelins, c'est-à-dire qu'elle va devenir, elle va épouser un paysan. Donc, qui était mon arrière-grand-père, qui avait cette particularité d'avoir travaillé donc, dans un château à côté d'Aligny et dont on m'a dit qu'il aimait passionnément les arbres, et sans doute que ça a été transmis à toute cette famille. Moi, mon père était professeur de biologie, enfin, et déjà un grand défenseur de l'écologie. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui s'est transmis, qui venait d'elle, de cet amour des fleurs, des arbres, et qui se transmet jusqu'à moi.
Alors, ce qui est très beau aussi, parce que quand on parle du Morvan, pour beaucoup de gens, les plus cultivés vont penser à Bibracte. Certains se rappellent tout de même Château Chinon, le fief de François Mitterrand. Je crois qu'il a été maire pendant plus de 20 ans, sûr et certain. D'ailleurs, Maud, vous allez être conviée à aller à Château Chinon. En plus, il y a le musée des... Alors, ça s'appelle la Cité des Présents, maintenant, a été inauguré il y a quelques mois. Et quand on parle du Morvan, on parle aussi du lac des Sept-Onts. Et c'est dans un bel hôtel qui a été incendié par les Allemands au tout début de la Seconde Guerre mondiale, c'est à l'hôtel de Beau-Rivage que Lili et Joseph, vos arrière-grands-parents, font le repas de noces.
En fait, le lac des Sept-Onts, pour moi, c'est vraiment le lieu des vacances de mon enfance. Le meilleur ami de mes parents dirigeait la base nautique aux Sept-Onts. Donc, on y allait pas tous les week-ends, mais quasiment.
À côté de la pagode,
mais exactement.
Souhaité par François
Mitterrand.
Et Mitterrand.
Voilà, c'est là où j'ai appris à nager, à faire de la voile. Enfin, très mal, mais c'est vraiment un lieu qui est resté un lieu idyllique pour moi.
Alors, Château Chinon, vous en parlez. Et alors, Maud, j'ai beaucoup souri parce que le 10 mai 1981, si les Françaises et les Français qui nous écoutent s'en souviennent, François Mitterrand, Daniel et il devait y avoir aussi, je pense, Roger Hanin à l'époque, se trouvent à l'hôtel du Vieux Morvan qui existe toujours sur la terrasse, François Mitterrand occupant généralement la chambre 15. Et alors qu'est-ce que j'apprends, Maud, que si on regarde les images d'archives de l'époque, on vous voit...
J'avais
Votre
2 ans.
Papa vous portait sur ses épaules.
Absolument. J'étais là à 2 ans sur les épaules de mon père et donc du coup assez facilement identifiable. Il y avait d'autres enfants. Visiblement, j'en ai retrouvé après.
Alors, il y a un autre épisode. Alors là, ça m'intéresse. Maud, vous êtes collégienne. François Mitterrand est encore président de la République. Et toute collégienne... C'est à Dun-les-Place, me semble-t-il, que votre classe, vous avez un petit repas.
Tous les ans, en fait, il y avait une classe qui était choisie dans le Morvan pour aller assister à la dépose des gerbes de fleurs de François Mitterrand en hommage aux martyrs de Dun-les-Place. Et cette année-là, c'était notre classe et j'avais été en charge de rédiger des tas de choses autour de Dun-les-Place. Donc on était déjà très bouleversés avant d'arriver. Et toute cette journée a été pour moi vraiment très marquante et notamment ce déjeuner avec François Mitterrand, où il a continué de parler de ce qui s'était passé à Dun-les-Place, mais plus globalement de l'histoire, en nous enjoignant de nous souvenir toujours de ça pour que jamais ça ne puisse se repasser. Et j'étais à côté de lui et il m'a parlé tout de suite en me demandant d'où je venais. J'ai dit que je venais d'Autun, des Éduins. Et j'ai eu une passion, pas forcément de ce jour, mais dans toute mon adolescence et encore aujourd'hui, pour les Celtes. Donc les Éduins en particulier, qui courent encore dans ce livre.
Et vous vous sentez très gauloise, Maud ?
C'est-à-dire que l'histoire des Gaulois, elle me fascine parce que quand moi j'étais enfant, elle nous a été mal enseignée. Et j'ai mis très longtemps avant de me rendre compte que cette histoire n'était pas du tout scientifique et que c'était une forme de propagande et qu'on ne cesse de redécouvrir l'histoire des Gaulois et qu'ils n'étaient pas du tout aussi mal dégrossis qu'on nous les présentait quand j'étais enfant et que c'était vraiment des gens éduqués, extraordinaires, avec donc une mythologie, une culture, une science incroyable. Et j'ai eu à cœur, en tout cas, de les replacer à leur place dans mon livre.
Alors, cet ouvrage dans lequel vous imaginez la camaraderie à Aligny en Morvan, dans la Nièvre, entre deux orphelins, donc votre arrière-grand-mère, Lily, d'une part, d'autre part, Jean Genet, le voyou, le mauvais garçon, le marginal, l'homosexuel. Mais c'est aussi des descriptions sublimes du Morvan que vous présentez comme une île. Vous écrivez notre île minérale.
C'est une île. Mon père était géologue, donc il m'a appris que c'était une île de granit, qui autrefois était entourée par la mer, qui s'appelait la mer Liassique. Donc c'est une île qui surnage. Et comme j'ai toujours écrit sur les îles, ça me plaisait que ce livre-là soit encore une île. Donc je l'appelais au début, mon titre de travail, plutôt que Le Feu et la Rose, c'était L'île intérieure. Et pour moi, le Morvan, c'est l'île cachée au cœur de la France.
Je vous lis, Maude, page 83. Je rappelle le titre de votre roman, Le Feu et la Rose, aux éditions de l'Observatoire. Une île au cœur de la France, recouverte de châtaigniers, d'eau claire et de forêts émeraudes. Une île rendue encore plus irréelle par le fait qu'elle soit prise continuellement dans les brumes. Alors justement, puisqu'on parle d'île, et j'en ai parlé au début de notre échange, je vous ai découvert en 2022 avec un sublime roman, L'heure des oiseaux, dans lequel vous reveniez sur un fait divers authentique, vous nous ameniez sur une île anglo-normande, l'île de Jersey. Là, dans ce dernier roman, on est dans notre île minérale du Morvan. Il se passe qu'il y a une petite fille dans L'heure des oiseaux qui se prénomme Lily. On retrouve là une véritable et authentique arrière-grand-mère qui s'appelle Lily. Toutes deux ont un point commun, c'est d'avoir été abandonnées. L'une va en orphelinat, dans cet horrible orphelinat de Jersey. C'est une affaire qui a été retentissante, hein, d'ailleurs, avec des déviances, des abus, de la pédophilie, des choses épouvantables, qui vraisemblablement a été organisée par des notables, et même la couronne a essayé d'écraser ce scandale. Ça, c'est authentique, cette histoire de cet orphelinat de Jersey. Vous parlez beaucoup du petit Jean Genet, qui reste un peu à l'écart des autres enfants. Je ne dis pas que c'est un ermite, mais il est à l'écart. Dans L'heure des oiseaux, il y a un homme qui vit en ermite dans une grotte. C'est Alphonse le Gastelois, à qui on a essayé de laisser entendre, même de l'accuser d'avoir abusé des enfants, de les avoir tués. Quelque chose de surprenant aussi, vous dites que la petite, donc je dis la petite parce que j'ai beaucoup d'affection pour la mère adoptive de Jean, je ne la connais pas, mais j'ai l'impression qu'elle a été tellement aimante avec cet enfant que c'est sublime, Eugénie Régnier, qui est morte en 1900, Maude, je l'ai noté, 1922, elle
exactement.
Est morte le 4 avril 1922, et vous dites que la tombe à Aligny en Morvan est introuvable. Et Lily, dans L'heure des oiseaux, alors qui fait une chute mortelle d'une falaise, pareil, pas de tombe, son corps vraisemblablement jeté
dans la fosse commune.
Dans la fosse commune, merci Maude. Alors beaucoup de points communs, l'enfance malheureuse, l'abandon, l'orphelinat, ce sont des thèmes marquants chez
vous. Je pense que vous pourriez tirer aussi un fil avec mon tout premier roman qui s'appelait L'Enfant Céleste, qui se
passait
dans une île.
Alors le problème, cher Maude, c'est que je ne l'ai pas lu.
Mais en tout cas, c'était une île de Scandinavie où il y avait déjà un rapport à l'enfance et à l'enfance marginalisée et marginale et à l'échappatoire grâce à la nature et à la science aussi. Ça parlait d'un astrologue qui était une forme d'ermite qui s'appelait Tycho Brahe. Et la femme qui partait sur cette île s'appelait déjà Marie. Donc cette Marie que j'écris à l'anglaise, c'est une forme de double pour moi dans tous les livres. Et cette enfance si difficile, c'est une thématique que j'ai filée sur ces trois livres. Ce n'était pas prévu. Le premier, je m'inspirais de mon fils qui a eu une enfance compliquée vis-à-vis de l'école. Il y a une grande souffrance. Et j'avais prévu d'écrire sur mon arrière-grand-mère. Et en fait, celui du milieu, L'heure des oiseaux, s'est intercalé. Tellement l'histoire de l'île de Jersey m'a révoltée. Et le silence qu'il y a eu autour, parce qu'on en a parlé à l'époque dans la presse, mais il n'y a pas eu grand-chose en France, en tout cas, alors que c'était à 20 km de nos côtes. Et de toute façon, les orphelins, des gens qui n'ont pas de parents et qui n'ont pas d'argent, ce sont toujours les laissés pour compte de la société.
Au début du roman, alors je ne sais pas si c'est vrai, là, est-ce que vous brodez ou est-ce authentique, vous dites que votre mère a choisi de fuir le Morvan pour oublier son passé et de partir au large de Thessalonique, donc vers la mer Égée, c'est un élément romanesque ou c'est authentique ?
Alors, mes parents ne vivent plus en France, mais ils ne sont pas sur une île de Thessalonique. Donc là, c'est un moment où j'ai voulu faire des ponts avec une autre thématique de mon livre, qui sont les sirènes. Parce que pour moi, l'eau, l'élément liquide dans le Morvan, c'était vraiment quelque chose de très central. En tout cas, enfant, j'étais fascinée par les contes qui tournaient autour de l'eau. La Vouivre, toutes ces histoires-là.
Qu'on retrouve. Alors, la Vouivre, moi, je pense à Marcel Aimé, mais Marcel Aimé, c'est le Jura, c'est un franc-comtois. Mais aussi, alors, c'est un peu déroutant, cette histoire, parce que c'est votre mère dans le roman, vous lui faites dire, de toute façon, chez nous, dans la famille, toutes les femmes sont des sirènes. Mais comment comprendre tout cela, Maud ?
Eh ben, ça vient de mon esprit un peu alvéolé, de fait que je sois une rêveuse. Ça m'a plu, dans un livre qui était assez simple, qui parlait donc des orphelins du Morvan, de parler aussi de ma passion pour les mythes celtes, la botanique, les auteurs que j'aime lire, les sirènes, donc, et toutes sortes de choses. C'était très agréable de les mêler dans un seul écrin.
Alors, si Jean Genet a produit une œuvre romanesque, dramatique, poétique dans une moindre mesure, Lily, elle a laissé une trace aussi. Elle a sa petite œuvre à elle.
Oui, j'ai eu la chance d'avoir dans ma famille beaucoup de gens qui savaient très bien dessiner. Et notamment ce grand-père dont je parlais au tout début de l'émission, dont je ne m'étais jamais rendu compte qu'il dessinait si bien. Il avait des tas de talents, mais c'était des gens, encore une fois, qui n'exploitaient pas leurs talents. Enfin, ils n'en avaient pas le temps, ils n'en avaient pas l'occasion. Et c'était un dessinateur hors pair. Voilà, ça m'a plu, en tout cas, de rendre hommage aussi aux talents cachés de ces gens-là, qui ont eu des vies en apparence assez simples, mais qui étaient vraiment étonnants.
C'était le rêve. Forme d'évasion. Alors, Lily et son herbier.
L'herbier n'existe pas.
D'accord.
On m'a raconté, en tout cas, qu'elle écrivait, qu'elle dessinait, mais il n'y a pas. Donc, j'ai redessiné toutes ces fleurs pour elle.
Lily a vraisemblablement beaucoup souffert dans son enfance parce qu'elle dort, elle a froid, il n'y a pas de confort. Et à un moment, le petit Jean Genet est tout de même là pour la protéger contre des méchants garçons qui se moquent d'elle ou qui veulent lui faire du tort. Jean Genet, à Alignan-en-Morvan, vous l'écrivez, Maud Simoneau, est fasciné par une Pietà polychrome.
Qui existe toujours, qu'on peut aller voir dans l'église d'Aligny. Elle est incroyable, l'église d'Aligny, si vous en avez une occasion. Elle est vraiment magnifique. Elle est toujours ouverte, donc on peut rentrer, la voir. Il y a ces troncs d'arbres vraiment tutélaires, comme ça, dans l'église. Et puis cette Pietà qui est très belle.
Alors, vous avez parlé des fleurs, donc avec votre maman aussi. Votre mère s'intéressait beaucoup à ce qu'on appelle les fleurs ou les plantes tinctoriales,
oui, c'est quelqu'un
qui servent à teindre.
Et c'est quelqu'un qui a la main verte, c'est-à-dire quelqu'un qui sait tout faire pousser, sauf certaines plantes qu'elle n'a jamais réussi à faire pousser dans le Morvan pour des raisons climatiques. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a une passion pour le jardin qu'elle nous a transmis. Mon père avait une vision plus scientifique de la nature et ma mère beaucoup plus terrienne et simple, mais belle aussi.
Vous écrivez dans les textes de prison de Genet, les fleurs sont omniprésentes. Et d'ailleurs, dans le journal du voleur, vous citez cette phrase de Jean Genet, les fleurs me rendent au passage un hommage, me reconnaissent. Vous aussi, c'est la même chose quand vous retournez dans le Morvan, les fleurs vous reconnaissent, Maud ?
Alors, je ne sais pas si elles me reconnaissent, mais moi, j'ai appris à les nommer. Et ce que m'a dit très tôt mon père, c'est que quand on sait nommer, que ce soit les chants des oiseaux, les pierres, les minéraux ou les fleurs, on apprend à mieux les aimer.
Jean Genet est-il retourné 8 fois dans le Morvan tel que l'écrit Lydie Dattas dans La chaste vie de Jean Genet?
Eh bien, on n'en saura jamais rien, mais si c'est vrai, c'est très troublant pour quelqu'un qui refusait a priori de parler de son enfance, d'imaginer qu'au soir de sa vie, peu avant de mourir, quand il était dans une très grande solitude et une très grande maladie déjà, il est retourné plusieurs fois dans le Morvan. Il a eu vraisemblablement le projet de s'y installer, puis finalement il est allé au Maroc pour d'autres raisons et il est mort là-bas. Enfin, il est enterré là-bas, je veux dire. Donc, je ne sais pas pourquoi il a changé d'avis, on n'en saura jamais rien. Mais qu'il a eu cette nostalgie de ce pays me fait me dire, en tout cas c'est ce qui m'a permis de l'écrire dans le livre, qu'il n'avait peut-être pas de si mauvais souvenirs de son enfance.
Je vais proposer une nouvelle pause musicale, mais Maud, j'avais presque envie de vous demander, est-ce que vous vous rappelez encore les paroles de la Morvandelle ?
Il me faudrait un peu de musique pour que je puisse vous les chanter. Mais oui, je les ai apprises quand j'étais petite.
Alors, je vous propose, là, en pause musicale, on va écouter un titre de David Bowie, dont il est question, d'ailleurs, dans le roman. On va écouter Space Oddity, parce que David Bowie avait rêvé jouer Divine, adapté...
Absolument, du livre de Jean Genet. Et c'est et Jean Genet, jusqu'à la fin de sa vie, s'est trimballé avec le scénario vraiment que voulait adapter David Bowie.
Dans ses fameuses deux valises qui ont été un temps conservées par Roland Dumas, on en reparle peut-être après. David Bowie, Space Oddity, je rappelle que c'est Maud Simoneau qui nous accompagne, Le Feu et la Rose aux éditions de l'Observatoire.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. We'll be right back.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Maud Simoneau, Le feu et la rose. Le feu, c'est Jean Genet. La rose, c'est votre arrière-grand-mère Lily Kanovitch. Juste avant David Bowie, bon, je laisse de côté l'interprétation de La mort vandelle par Maud Simoneau.
Une autre fois, avec joie.
J'aimerais que nous revenions sur alors peut-être l'œuvre de Jean Genet, parce qu'en cette année 2026, nous commémorons les 40 ans de la disparition de...
Et d'ailleurs, il y a très peu de choses, je tiens à le dire, c'est fou. Il y a eu un article dans Le Monde et pas grand-chose d'autre, en fait, au niveau national.
Ce qui est tout à fait bouleversant, vous parlez, c'est l'adjectif qui est surprenant, de la solitude terrifiante de Jean Genet dans ses derniers jours. Il ne s'est jamais posé, n'a jamais posé les bagages, il vivait dans des studios un peu laids, des chambres d'hôtel, il trouve la mort... Donc, alors la date est imprécise, mais c'est du 13 au 14 avril 1986.
C'est comme ça que c'est marqué sur sa tombe, ce qui rend la chose encore plus mystérieuse.
Il faut aller au Maroc, hein, tout de même, hein, donc dans le vieux cimetière espagnol de Larache.
Pour le coup, s'il y a vraiment une incarnation d'un nouveau Rimbaud au XXe siècle, c'est lui. Jusqu'au bout, hein, il aura été quelqu'un avec des semelles ailées, qui aura eu la vie tout à fait en adéquation avec ce qu'il était, c'est-à-dire quelqu'un qui ne s'est jamais posé nulle part et qui n'a eu de cesse de chercher quelque chose, mais quoi, on ne saura jamais.
Et... Alors, lui, Jean Genet, a pu voyager, il a pu bouger, avec des engagements controversée.
Ah
parfois,
oui.
Lily, elle n'a pas pu bouger.
En réalité, c'est quelqu'un qui avait déjà fait un grand voyage. Ses parents venaient de l'Italie, elle est passée par l'Angleterre, donc on sait qu'elle est née en Angleterre, avant d'atterrir, on ne sait pas pourquoi, dans le Morvan. En plus, dans un placement, donc elle était d'origine juive, pourquoi est-ce qu'elle s'est retrouvée dans une famille catholique dans le Morvan? Enfin, comment c'est possible qu'elle ait atterri en France? On ne saura jamais.
En tout cas, elle n'a pas été inquiétée pendant l'occupation?
Non, a priori.
En revanche, en 1970.
Non, elle n'a pas été inquiétée. Je pense que les gens du Morvan était très solidaire et dans sa famille, il se trouve que dans cette famille du côté Simoneau, il y a eu beaucoup de gens qui étaient dans le maquis. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, des oncles, des grands-oncles, enfin, il y a eu énormément de gens, mais comme la plupart des gens du Morvan, ça a été un des endroits où il y a le plus de maquis en France, il y a eu une vraie résistance. Mais je me disais quand même que dans son enfance, cette petite fille qui était déjà orpheline, qui était une fille, donc dans un milieu très pauvre et qui était d'origine étrangère, parce qu'elle a dû arriver sans parler français, ça n'a pas été simple quand même. Hein, on peut vraiment se projeter et imaginer ce qu'elle a dû endurer avec ce nom-là, que même les gens de l'état civil dans le Morvan n'arrivaient jamais à orthographier correctement.
Alors, un petit développement sur une phrase puisée dans votre dernier texte, Maud. Les plus grands voyages sont immobiles. Comment comprendre ?
Mais qu'il n'y a peut-être pas besoin de traverser le monde dans tous les sens pour rêver d'ailleurs et pour avoir cette capacité à s'évader.
Jean Genet, avec Notre-Dame des Fleurs, donc je rappelle, c'est lui le feu, hein, dans le titre de votre roman. Lorsque va paraître en 1946 Notre-Dame des Fleurs, là on retrouve aussi l'importance des fleurs et leur place dans l'œuvre de Jean Genet. Bon, c'est Cocteau, hein, qui découvre le texte, et Cocteau qui passe le texte, bon, à Paul Valéry, qui est un petit peu quand même presque l'écrivain académique d'une certaine France engoncée dans une bourgeoisie bien pensante. Alors c'est amusant, là encore on retrouve le feu, parce que Paul Valéry dit à Cocteau, brûler ce livre.
Mais oui, il n'a pas eu la réaction qu'il aurait dû avoir, mais il y a eu quelques ratages, hein, dans les lectures des manuscrits par des confrères poètes, écrivains. Heureusement, ce manuscrit n'a pas été brûlé et Genet a été très protégé par d'autres éditeurs. En revanche, Gallimard a publié toute son œuvre dans cette maison et a trouvé tout le temps des gens pour l'abriter. C'était quelqu'un quand même qui savait séduire aussi en dehors de ses écrits et qui savait à qui s'adresser et pour toucher de l'argent et pour se faire vraiment introduire là où il fallait et qui a réussi à publier tous ses textes. Et heureusement, on n'aurait jamais eu de découvert tout ça comme ça sinon. Et jusqu'à il y a encore l'année dernière, chez Gallimard, ils ont ressorti le scénario d'un film qui s'appelle Mademoiselle, dans lequel jouait Jeanne Moreau. Et dans ce scénario, on voit plein de choses qui sont vraiment issues du Morvan. Et ça, c'est très troublant. Et aussi des réflexions sur ce que sont les immigrés qui viennent dans le Morvan pour travailler, comme il y a eu à l'époque des Italiens, des Polonais, etc. Il y a cette réflexion-là. Très vite, Jean Genet, il a eu conscience que lui, il était différent, mais que les gens qui venaient pour travailler, qui venaient d'autres pays et qui étaient souvent assez maltraités aussi, l'étaient aussi.
D'ailleurs, Jean Genet dit que pendant longtemps, il ne s'est jamais senti très français, finalement.
Ouais, ben, en fait, il était apatride, comme souvent les gens qui n'ont pas de famille.
Alors, ce qui est beau de Lily et de Jean, vous leur inventez une nouvelle patrie qui est cet environnement, ces collines bleutées du...
Alors, en fait, c'est Jean Genet qui le dit, si on le lit très attentivement. Il dit « Ma famille, ce sont ces fleurs du Morvan ». Il le dit. Et ça m'a semblé une très belle famille.
Christophe Barbier, dans son dictionnaire amoureux du théâtre, dit de Jean Genet qu'il est un auteur politique et que son œuvre est politique. Qu'en pensez-vous, Maud ?
Bah oui, en tout cas, il a dénoncé des choses sur l'enfermement, sur la condition faite aux homosexuels. Il y a eu des engagements ensuite vraiment très politiques au temps des guerres.
Le colonialisme.
Voilà, bien sûr, pour plein. Alors, des engagements qu'on partage ou qu'on ne partage pas, mais c'était quelqu'un qui a été vraiment la figure de l'écrivain engagé tout au long de sa vie et en révolte permanente et en dénonciation dans quelque chose de vraiment très féroce et dès l'adolescence, à chaque fois qu'il est mis en prison pour ses premiers larcins, mais encore une fois, ça serre le cœur, parce qu'il a volé un mouchoir, un livre, rien en fait. Et les conditions sont de pire en pire, et évidemment il est aussi accusé d'être fugueur et d'être vagabond. En fait, il est mis en prison parce qu'il est sur la route.
Et ensuite, mais il était plutôt heureux en prison.
Pas maîtresse, ça c'est pas possible. Ensuite, lui en a fait quelque chose, puisque ses plus beaux textes de cette époque-là datent de ses emprisonnements. Mais il a réussi à sublimer l'enfermement, mais il a dénoncé les conditions carcérales. Enfin, il raconte les choses de manière très brutale et véridique. Et voilà, c'est quelqu'un qui ne laisse pas, en tout cas, indifférent.
Vous dites d'ailleurs dans le roman, à un moment, il voit une figure masculine du village, un Italien pêcheur de serpents qui se... Alors, je ne sais pas s'il se dénude complètement ou s'il enlève juste le haut et le petit Jean, dont tout le monde se moque un peu dans la manière dont il s'assied sur le pont d'Aligny en Morvan, il découvre cette espèce de sensualité, de beauté du corps masculin.
Et j'ai vu des photos de Angelo, et c'était réellement un homme très beau, très grand, et qui était toujours au centre des photos. Il en imposait, et ça, c'est sûr.
Alors, on sait qu'il s'est engagé pour les Panthères Noires, pour Angela Davis, la bande Abba Adair. On a parfois dit de Jean Genet que c'était un fasciste rouge, dont on a souligné aussi l'antisémitisme.
Oui, alors bon, en tout cas, il y a des témoignages quand il est enfant, de camarades qui sont juifs. Il y en a un notamment qui a été retrouvé, c'est dans les archives de l'IMEC, et qui dit qu'à aucun moment, qu'au contraire, c'est un très bon camarade et qu'il n'a pas du tout jamais eu de... Alors qu'on savait qu'il était juif, qu'il n'a jamais entendu Jean Genet dire quoi que ce soit à son encontre. J'avoue que là, c'est pas ma zone de confort, parce que moi, je me suis surtout intéressée à son enfance, donc de 0 à 14 ans. Après, toute la vie de Jean Genet, et pour être détaillée, controversée, etc., il y a tellement à dire, il y a eu tellement de choses qui ont été dites, c'était vraiment plus mon sujet. Moi, j'en avais pas une bonne vision, en tout cas, de Genet, homme, avant de commencer à travailler sur son enfance. C'est-à-dire que j'admirais l'écrivain, mais il était tellement... ça semblait tellement un loulou tout au long de sa vie. Il me paraissait pas très sympathique, ce Jean Genet. Mais quand on le redécouvre enfant et quand on voit d'où il est venu, il y a quand même, à un moment donné, moi qui ai maintenant des enfants qui sont des adolescents, je me dis, mais ce qu'il a vécu à son âge, l'emprisonnement si tôt et le fait d'avoir perdu deux fois ses mères. Bon, en tout cas, j'ai développé une autre forme de tendresse pour lui.
Alors, légende, où est-il ingrat quand il écrit « Je n'ai pas eu de famille » ?
Eh ben, on ne saura jamais. Moi, j'imagine que c'est parce que non seulement il n'a pas été malheureux, mais qu'il a été heureux et que c'est peut-être la plus belle période de sa vie avec cette mère adoptive qui s'appelait Eugénie. Peut-être que justement, c'est trop dur de s'en souvenir.
En tout cas, Jean Genet écrit « J'ai brûlé si longtemps et d'une haine si ardente que je suis de cendre ». C'est vrai que l'œuvre de Genet est quand même une œuvre de poudre, de sang, c'est glauque. Et puis la mort est omniprésente. Quand
Oui, bien sûr. Mais quand on lit les lettres qu'il a écrites à donc, sa sœur de lait, au moment où ils sont séparés, c'est l'inverse, c'est d'une tendresse infinie. Et il veut absolument revenir dans le Morvan.
Alors, on est pratiquement au terme de notre émission, page 76, dans Le Feu et la Rose. Vous écrivez « Si j'avais choisi de rester donc dans le Morvan, quelle aurait été ma vie si je n'étais pas monté à la capitale pour mon travail ?» Alors Maud, que seriez-vous devenue si vous étiez restée dans le Morvan ?
J'imagine que j'aurais peut-être pu travailler un peu dans les plantes. Ça m'aurait plu.
Et vous auriez fait des marchés de Château-Chinon.
J'aurais été obligée de me lever très tôt, dans le froid et la brume. Mais voilà, peut-être que ça restera un de mes regrets de ne pas être plus près des arbres et des fleurs.
Et puis je pensais aussi, en vous lisant, je pensais à Irène Némirovski, qui s'est un temps cachée avec son mari et ses deux filles naturalisées françaises à l'époque, à Issy-l'Évêque, dans un petit village de Saône-et-Loire.
On pourrait écrire 12 livres encore sur tous ces gens qui ont été dans le Morvan. Tous les écrivains qui sont passés, moi c'était fou quand j'ai découvert qu'il y avait James Salter qui avait vécu à Autun, le livre en tout cas, et puis donc quelqu'un pour qui j'ai une admiration dingue qui est Sylvie Germain, le livre qui lui avait valu le prix Femina et le fait qu'elle ait des attaches familiales aussi dans le Morvan. Enfin, je me dis voilà, il y aurait tant à dire sur ces gens qui ont été un peu, pas forcément entièrement, mais un peu influencés par notre beau pays.
Et puis je rappelle aussi que vous publiez chez Grasset « Contes du Morvan » dans la collection « La France par ses contes ». C'est assez récent ça, Maud.
Oui, en fait, c'est une collection qui a été lancée il y a un an. J'adore, moi j'ai adoré les contes de fées quand j'étais adolescente. Il n'y avait pas grand-chose en littérature adolescente pour les gens de ma génération. Il y avait enfants et puis adultes. Et j'adorais les contes de fées. J'aime toujours en lire. J'étais très heureuse. J'adore les contes de fées de George Sand, par exemple. Et donc j'étais très heureuse qu'on me demande ça. C'est un prolongement de mon livre parce qu'il y a plein de fils, en fait, que je me suis amusée à tirer entre les Celtes dont je parle dans Le Feu et la Rose, et les contes celtes, les légendes du livre. Et pareil pour les sirènes, la Vouivre et les sources de la Seine, enfin beaucoup de choses.
Les jeteurs de sorts et les loups.
Et les loups.
Les loups.
Qui sont aussi dans le livre, qui ont une grande place dans le livre.
Dont vous rappelez que la dernière battue a eu lieu en 1956, pas très loin du sceau de Goulou.
Donc en tout cas, j'ai trouvé que c'était un exercice très agréable aussi d'écrire ces contes et légendes du Morvan en m'inspirant de corpus qui existaient déjà, mais à ma manière.
Alors je rappelle donc, l'actualité, c'est Le Feu et la Rose aux éditions de l'Observatoire. On peut lire L'heure des oiseaux, paru en 2022, prix Jean Frustier. Et n'oublions pas donc votre premier roman qui avait pour titre, j'ai pas encore lu la trilogie de Maud Simonneau, L'enfant céleste, également aux éditions de l'Observatoire, choix Goncourt de l'Italie. Et une biographie, La nuit pour adresse.
Oui, qui parlait d'un éditeur des années 20 qui s'appelait Robert McAlmon.
Le feu et la rose. Chère Maud, merci de ce très beau texte. Merci de nous avoir révélé qui était cette arrière-grand-mère Lili Kanovitch.
Merci à vous et merci pour elle.
Cet hommage à Jean Genet qui tombe si bien en cette année 2026. Et puis, vous allez devenir une des ambassadrices du Morvan officielle.
J'espère bien.
Le feu et la rose de Maud Simonneau. Et puis, si vous avez manqué une partie de cette émission, vous la retrouvez d'ici quelques jours en podcast sur yannickpetit.fr. Je rappelle Maud Simonneau, directrice éditoriale chez Actes Sud. Merci beaucoup, Maud,
merci
pour
Yannick.
Ce bon moment
merci
passé
beaucoup.
Avec vous et en partage avec nos auditrices et auditeurs. Au revoir et à samedi prochain, toujours sur l'antenne de Radion.